Le bal sur Fréquence Mistral.
Oh, oui.
Voilà.
Vous êtes à l'écoute de Fréquence Mistral. Nous poursuivons cette matinée avec un deuxième invité, Mathéo Rieux, un jeune réalisateur de court-métrage, venu nous présenter son travail. Bonjour Mathéo.
Bonjour.
Sur le plateau également Maxime Hutin, technicien à Fréquence Mistral.
Bonjour.
Bonjour. Alors, juste pour l'attention de nos auditeurs, vous le savez peut-être déjà, un film de moins d'une heure. Alors, qu'est-ce qu'un court-métrage ? Eh bien, c'est un film de moins d'une heure, tout simplement. Alors, ça peut être 7 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, en tout cas, moins d'une heure. Et c'est souvent par ce format court que les réalisateurs font leur premier pas avant de se révéler au grand public dans les salles de cinéma avec leur long métrage. Bon, après, il y a d'autres formats, hein, comme les documentaires, qui doivent faire absolument 52 minutes. Tout est codifié, mais aujourd'hui, nous allons parler de court-métrage. Alors, Mathéo Rieux, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir réalisateur et pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours ?
Alors moi j'ai commencé en fait avec mon téléphone en faisant des vidéos avec mes potes quand on était dans la rue, quand on était dehors. On se filmait en train de faire plein d'activités en soirée, quand on faisait du sport ou quoi que ce soit. Et dès que j'ai pu m'acheter un ordinateur, j'avais envie de faire des montages pour essayer de monter toutes ces vidéos sur une musique, faire des petits edits, tout ça. J'ai commencé comme ça à toucher au montage et en fait petit à petit je me suis rendu compte que mais j'aimais bien ça, j'essayais de plus en plus de... qu'il y a un sens dans mon histoire, et en fait je me suis dit mais pourquoi, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, et je me suis rappelé que quand j'étais petit, je disais à mes parents que je voulais être réalisateur de films, alors que je savais même pas ce que ça voulait dire.
Ah bah,
je me suis dit mais en fait pourquoi pas faire ça, et du coup de fil en aiguille j'ai commencé de plus en plus à me renseigner, à regarder de plus en plus de films, à me rendre compte que c'était vraiment ça que je voulais faire de ma vie, et maintenant voilà, j'essaye de faire des courts-métrages, d'écrire des histoires, de faire des contacts pour essayer de vivre de ça.
Vous n'essayez pas, vous faites des courts-métrages. Vous avez quel âge ?
J'ai 20 ans, je viens d'avoir 20 ans.
20 ans. Maxime ? Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, pas forcément. Je trouve que c'est vachement bien comme démarche, surtout à ton âge, que tu es relativement jeune en vrai. Et déjà avoir dans ton portfolio déjà au moins 3 courts-métrages, d'après ce que j'ai compris. C'est déjà un bon parcours, je trouve, pour ton âge.
Bah, en fait, moi j'ai direct essayé de me dire que le mieux pour apprendre était d'essayer de faire, quitte à faire des erreurs, quitte à réussir des choses aussi, mais en essayant, moi je trouve que c'est la meilleure manière d'apprendre, surtout dans ce milieu-là. Il y a très peu de théorie, en réalité ça sert toujours, mais de toute façon quand tu l'appliques pas derrière, ça marche difficilement. Et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait tenter, faire des choses, et au début il y a toujours un peu la peur du regard de l'autre, mais finalement très rapidement je suis sorti de ça, et je me suis dit bon bah on essaye, on voit, et maintenant bah, c'est cool parce que de plus en plus de gens sont derrière moi et veulent m'aider et me poussent à essayer d'aller plus loin, mais voilà. On répète souvent que je suis assez jeune, des fois ça m'aide dans le travail, des fois c'est un peu compliqué, on va me redescendre un peu parce que je suis jeune, mais
c'est-à-dire il y a un manque de confiance.
Bah en fait des fois je me suis retrouvé à travailler sur des tournages en tant que à des postes assez conséquents, et comme j'avais 18-19 ans, on voulait pas forcément trop m'écouter, ou on n'allait pas me faire confiance ou me prendre au sérieux parce que j'étais jeune. Mais par contre, en revanche, il y a des fois où justement ça, c'est un atout énorme, parce que voilà, quand je fais des courts-métrages, que je les fais diffuser au cinéma en avant-première ou quoi que ce soit, et que je dis que j'ai 19-20 ans, bah les gens sont toujours plus, on va dire, impressionné, trouve ça intéressant. Donc voilà, moi tout ce que j'essaye de faire c'est tenter des choses, il n'y a pas vraiment de chemin pour devenir réalisateur, donc on tente, on voit où ça marche, et petit à petit on voit comment on peut réussir.
Alors j'ai un trou de mémoire, le réalisateur canadien qui a fait Mommy, qui est très jeune, j'ai un trou de mémoire, il est fantastique ce réalisateur, qui a 34 ans et qui a je ne sais combien de... Bah, je vais m'en rappeler. Il a commencé très jeune aussi, hein, il y a 30 ans maintenant.
La plupart ont commencé très jeune.
Oui.
Dans tous ces métiers-là, en général, on commence très jeune, et c'est après des années et des années de pratique où on galère, qu'on a pas forcément du public, mais au moins qu'on a la reconnaissance de nos pairs.
Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que souvent on a envie très jeune, souvent on commence très jeune, et en fait, il n'y a tellement jamais d'âge. C'est pas comme médecin, on fait 10 ans d'études, voilà, on sait qu'environ à 30 ans, on est médecin et qu'on commence à travailler. Là, à tout moment, dans un an, je commence à me faire du public et à pouvoir marcher, me faire produire des films, et à tout moment, dans 30 ans, c'est dans 30 ans que je réussis. Il n'y a pas vraiment de chemin, il y a des gens qui réussissent très tard à être connus et à faire leurs films, il y en a, c'est très tôt, parce que voilà, il n'y a pas de chemin, et c'est pour ça, moi, j'essaye de faire un peu comme je peux, tenter des choses, voir ce qui est possible, et c'est un chemin compliqué, mais on voit comment ça bouge.
Parce qu'il ne faut pas minimiser le chemin aussi, parce que bon, si on veut devenir médecin ou avocat ou tout autre métier, il y a du travail, et l'art et la réalisation, c'est beaucoup, beaucoup de travail aussi et de l'énergie. Et sans travail, on peut avoir tous les talents qu'on veut, on n'y arrivera pas. Donc c'est avant tout beaucoup de travail aussi.
Non, bien sûr, et c'est un truc qui revient souvent dans tous ces métiers, on va dire, artistiques. Parce que du coup, moi, je suis compositeur à côté. Le propos qui vient souvent, c'est que c'est une passion. Dans la tête des gens, c'est une passion. Et du coup, ouais, c'est sympa, tu fais de la musique, tu fais de la réale. C'est cool, t'aimes bien filmer, tu joues de la guitare, c'est cool. Mais derrière, il y a un vrai travail, il y a vraiment des connaissances que tu acquiers avec le temps, et ça, c'est en faisant, concrètement. Hein,
et ce qui est compliqué, c'est qu'on est catégorisé comme des gens, justement, qui font leur passion, et qui essayent leur passion, et pas comme, par exemple, des étudiants. Moi, là, actuellement, j'ai fait 2 ans de BTS audiovisuel, je viens de finir là, cette année, et là, maintenant, j'essaye de vivre de ma réalisation, de mon travail, soit en technique pour faire l'intermittence, soit de mes côtés des projets que je fais, mais je suis catégorisé comme... comme un travailleur et plus comme un étudiant, donc j'ai plus ces aides-là, mais aussi moi j'ai de la chance que mes parents continuent de m'aider, de me suivre encore un certain temps, mais dans les yeux de plein de gens, bon voilà, je suis quelqu'un qui est dans le milieu du travail et je suis plus quelqu'un qu'on va aider, j'ai plus le droit à beaucoup d'aide, alors qu'en réalité moi j'ai des amis qui sont en école de médecine, en fait je travaille autant qu'eux en école de médecine, juste moi je travaille à côté, pas avec des cours, en essayant. Même souvent je le dis, souvent je donne une anecdote en rigolant, je dis mais à tout moment tu peux me croiser à Paris dans un bar en train de boire des bières et en fait je travaille parce qu'il y a tellement énormément d'humains et de contacts que je me retrouve encore la semaine dernière, j'étais à Paris avec mon dire de prod et on était avec une maquilleuse qui connaissait, avec qui on est allé boire des coups. Mais en fait, c'était pour que je la rencontre pour un projet qu'on a dans quelques temps et que voilà, il y a un feeling qui commence à passer. C'est vraiment non-stop du travail tout le temps. Moi, je sais que, en tout cas, pour ma part, je suis tout le temps à penser à ça, à chaque action, à me dire, OK, ça peut servir à ça, ça peut servir à ça. Et ce qui est compliqué, c'est qu'au début, comme c'est des métiers passion, on le fait beaucoup sans être payé du tout.
Totalement.
Et c'est ça qui est différent des études, parce que les études, pareil, on n'est pas payé, mais on est étudiant. Là, on n'est pas payé parce qu'on essaye et on est catégorisé comme rien. Et c'est un peu compliqué.
Oui, on ne peut pas se proposer pour être salarié. Enfin, c'est tout autre métier. Le chemin est dur et long. Et il faut aussi réseauter, entre guillemets, se faire un réseau, parce que tout passe par là, la rencontre des gens. Et c'est parfois une rencontre qui va amener un projet. Donc, il est important même d'aller dîner, boire un verre avec telle ou telle personne, parce que ça fait partie du métier, bien sûr. Quels sont les réalisateurs qui vous inspirent, par exemple ?
Alors moi, c'est assez drôle parce que quand on me pose cette question, en fait, j'ai pas vraiment un réalisateur ou un chef opérateur vraiment à donner. Parce que en fait, je suis souvent j'ai plutôt un style, on va dire, de film que j'aime bien. Moi, j'aime bien les films qui se passent à peu près dans les années actuelles, les années 2000, et qui racontent une histoire que je pourrais vivre, en fait, ou qui sont assez réalistes dans leur manière de filmer. Et si j'ai un réalisateur à donner dans lequel je me retrouve le plus, ça va être Lajli, le réalisateur de Les Misérables, un des films dont on parle dans cette série.
Mm-hmm. La haine aussi, non ?
Et comment ?
La haine, non ?
Non, ça, non, c'est Mathieu Kassovitz, mais qui a fait Les Misérables et récemment Bâtiment 5. En fait, il y a 3 semaines, j'ai regardé Bâtiment 5 qui est sorti en décembre, et vraiment, je me suis dit, bon, pas parce que j'ai pas la prétention de dire que j'aurais pu le faire, mais j'aurais pu écrire ce film dans l'histoire. C'est tout ce que j'aime, et c'est tout dans le déroulement de l'histoire, c'est tout ce que j'aime faire. Et c'est celui avec qui je me retrouve le plus par rapport au sujet qui parle, tout son parcours aussi avec Courtrage Mais et tout ce collectif là qui est très intéressant. Mais voilà, sinon, à part Lajli, qui a réalisé pour l'instant, on va dire, que 2 films, après lui, il a fait aussi beaucoup de courts-métrages et de clips. J'ai pas vraiment un réalisateur en particulier que vraiment j'aime beaucoup.
Ok, Maxime ?
Non, ouais, je pense que c'est un très bon réal, hein, au niveau de comment il amène le truc. Et t'as aucun réal au niveau de, on va dire, plus de... l'imagerie qui renvoie, qui te plaît, genre du Wes Anderson avec ses plans très symétriques,
en fait,
très colorés.
Il y a des films que je vais adorer. Ouais. J'ai plein de références à donner en termes de films, mais c'est jamais un même réalisateur ou un même chef opérateur qui sur plusieurs films va me donner les mêmes envies. Par exemple, j'ai adoré Split, les plans notamment en grand angle dans Split, que je trouve vraiment très intéressant. Mais j'ai pas forcément, dans les autres films que ce réalisateur-là a pu faire, j'ai pas forcément retrouvé ça, mais il y a des films, j'ai regardé un Tarantino dernièrement que j'ai adoré. Alors Tarantino, on retrouve quand même souvent ce qu'il fait, et j'en ai regardé 3-4 d'affilée ce week-end-là, on retrouve souvent régulièrement, j'aime bien, mais on va dire oui, il n'y a pas un réalisateur où à chaque fois, vraiment la limite, oui, c'est Lajli en fait, c'est sa façon, c'est les sujets qu'il aborde et la façon dont il a de le faire en rajoutant des fois beaucoup de moments de tension, de moments de violence, et sur des sujets en fait de société actuelle qui nous touchent tous, qui sont en France en plus, qui sont des sujets que moi je trouve très importants. C'est celui en fait où je me retrouve le plus, notamment surtout dans le propos en fait, plus que dans l'image.
Alors je reviens, le réalisateur que je cherchais, que j'aime beaucoup, mais j'ai eu un trou de mémoire, c'est Xavier Dolan.
Ah, Nolan, oui, excellent.
Voilà, donc jeune prodige du cinéma. Canadien qui a commencé à 20 ans justement et puis qui maintenant, j'adore ses films plutôt intimistes, etc. Mais bon,
je suis pas un grand fan
de ses ouais. films. Ah, j'adore. Moi, je sais pas pourquoi ces histoires me touchent et notamment la fin du monde avec Marion Cotillard, Vincent Cassel. J'aime tous ces histoires un peu sur la famille, sur le. Il y a toujours des histoires un peu terribles sur la famille, sur l'enfance. Qu'est-ce que tu n'aimes pas?
Oh, pour être franc, c'est,
enfin,
c'est
ça vrai touche que pas, quoi.
Ça me touche pas, mais c'est ça qui est beau avec l'art aussi, c'est qu'au final, c'est qu'une proposition. C'est pas parce que moi j'aime pas, tu vois, que ça veut dire que son travail est à jeter, loin de là. Mm-hmm. J'adore Wes Anderson, je vénère ce réal. Il y a plein de gens qui vont s'ennuyer devant ses films, parce que la manière dont le propos est amené...
Et justement, je trouve ça intéressant ce que tu as dit sur c'est de l'art. Moi, ça peut me toucher, d'autres non. En fait, je trouve que c'est justement très compliqué, notamment dans ces milieux artistiques. C'est que moi, il y a des sujets qui me touchent, il y a des façons de faire qui me touchent, mais qui dit que ça va plaire aux gens? Et quand même, pour vivre de ces métiers-là, il faut que ça plaise à quelqu'un. Déjà, avant tout, à des producteurs ou à des chaînes pour pouvoir faire ton film, et ensuite au public. Et c'est très compliqué, en fait, parce que moi, il y a des choses qui vont me toucher et d'autres choses qui vont totalement me toucher. Comment réussir à rassembler sur des sujets tout en. Moi, je sais que j'ai envie de garder quand même mes valeurs et ma façon d'être et pas aller m'ouvrir juste à un grand public pour m'ouvrir à un grand public et marcher et vivre de ça. Et comment, des fois, j'essaye de réfléchir à comment lier à la fois ce côté très... très compliqué, justement, exclusif de l'art où soit ça touche, soit ça touche pas, et à la fois réussir à toucher un grand public au maximum pour essayer de vivre de ça.
C'est une grande question, justement, parce que est-ce qu'on fait quelque chose juste pour se parler à soi-même, ou est-ce qu'on fait quelque chose pour le dire au plus grand nombre? Et non, mais très justement, c'est une grande question. Comment dire, après, il faut faire simplement vraiment, je pense, ce qu'on aime, parler avec le cœur, avec les tripes. Puis ça passe pas.
J'ai un discours un peu plus tempéré là-dessus. Oui. Je pense que c'est une espèce de ligne où, sur laquelle on va être en funambule, on dit, je me souviens plus. On sera à l'équilibre toute sa vie. Il faut, je pense, rester soi-même, garder ses convictions et tout. Mais c'est vrai que si on fait quelque chose de très niche, je sais que moi, niveau musique, j'aime des trucs très très niches.
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Oui. Donc il faut peut-être parfois faire des compromis, même si c'est pas cool. Pour en vivre, je parle, si on veut vraiment faire ça en indé, c'est possible aussi. Mais parfois, il faut essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on aime faire et ce qui marche, hélas.
Oui,
moi après, je pense que je te rejoins assez, Nathalie, sur ce que tu racontes, parce que notamment dans le cinéma, je pense qu'il y a des sujets, plus que dans la... Là, je te parle vraiment dans le propos, dans le fond. Oui. Je trouve qu'un sujet qui va nous tenir à cœur et dont on a envie de parler, et on vit en fait beaucoup de choses que d'autres gens vivent. Donc, par exemple, si on a envie de parler d'un sentiment en particulier, d'une émotion, quoi que ce soit, en fait, on vit des histoires que énormément de gens vivent, et où ils peuvent se retrouver dedans, soit totalement pareil, soit retrouver des points de leur histoire qui vont les toucher. Je pense que des films sur la tristesse, il y en a des millions. Et en fait, on a tous été tristes dans nos vies, on a tous été heureux aussi. Et je pense qu'on peut tous retrouver un peu ça. Donc, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut, y a des sujets qui... je pense que c'est un compromis en fait à faire. Faut le faire avec le cœur, faire vraiment ce qu'on fait à fond, mais des fois aussi peut-être pas être trop niche et s'enfermer c'est dans ça. Un sujet,
et oui.
En faisant en sorte que et les gens puissent se retrouver quand même dans le propos qu'on raconte.
C'est une vraie question. Bon, moi je serais plutôt d'avis de faire exclusivement, et bon, je suis un peu radical, mais je comprends totalement ce que dit Maxime, je comprends totalement ton point de vue aussi, Mathéo. En tout cas, c'est une grande question, et c'est une question qui n'est pas simple.
C'est la question de la commercialisation de l'art, en fait. C'est ça qui est très complexe, parce que même si dans le monde idéal, chaque artiste peut faire vraiment ce qu'il aime, uniquement ce qu'il aime, bah, il faut payer le loyer, il faut payer la nourriture, et c'est vrai que du coup, ça amène des compromis. Néanmoins, surtout dans le cinéma, les styles un peu plus niches, on va dire, même si le public est moins présent, forcément, il va y avoir moins de gens sur un Wes Anderson que sur le dernier Marvel. Mmh. Néanmoins, on le voit très bien avec les cinémas spécialisés dans l'art et l'essai, par exemple, qui ne sont pas... L'art et l'essai, c'est pas ce que le grand public va aller voir en premier. Néanmoins, c'est des cinémas qui sont là, qui marchent,
oui.
Et qui font des entrées. Donc,
oui.
L'espoir n'est pas perdu.
Bien sûr.
Mais parfois, c'est vrai, il faut faire des compromis, et c'est triste. Mais
et d'autant là, plus que c'est une discipline qui demande le cinéma. Bon, c'est pas comme une aquarelle, hein, je dirais. Ça demande beaucoup d'argent en production. Donc, de payer une équipe, de payer...
On se rend pas compte.
C'est énorme.
Peut-être que tu pourrais venir dessus, mais on se rend pas compte de déjà l'investissement que c'est de faire un court-métrage.
C'est le plus dur. C'est ce qui manque tout le temps. Bah, c'est horrible, hein, mais on est toujours à la recherche d'argent tout le temps. Et quand on a de l'argent, il en manque toujours.
Oui.
Y a même je sais que les films quand t'as un film à 15 millions, il te manque toujours un million derrière. Enfin, et on n'est jamais satisfait, mais c'est très excessif les prix au cinéma.
Les budgets,
c'est notamment pour ça que c'est compliqué de vivre de ça et d'être payé. Parce qu'on se retrouve, moi je tourne souvent, je me retrouve souvent à tourner sans être payé en fait. Parce que bah, je vais aider le court-métrage d'un pote, je suis embauché là sur un court-métrage de gens que je connais pas forcément, de contact. Mais en fait, comme je me dis, ça me fait de l'expérience, ça me fait des contacts,
bien sûr.
Ça les aide. Et en fait, c'est tout ça jusqu'au jour où on a quelqu'un qui arrive à se faire produire et à payer. Et même des fois, on arrive à se faire produire, par exemple, pour un court-métrage, à des sommes assez conséquentes. Et en fait, toujours pas assez pour payer ce qu'on voudrait payer, pour payer les équipes. Moi, je sais que les prix, pour en parler un petit peu, d'un court-métrage en général financé, où on peut payer les gens, c'est entre 70 et 100 000 euros. Mais c'est énorme. Et on peut acheter un appart à 100 000 euros pour faire un court-métrage d'une 15 à vingtaine de minutes, quoi. C'est énorme.
Mais en fait, c'est ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'on a la technique, on a le réal, le chef-op, les acteurs,
la maquilleuse, le monteur,
le compositeur,
la colorimétrie,
le monteur.
Aussi.
Derrière chaque petit projet,
derrière,
c'est impressionnant.
La régie, force à eux, hein, les oublie très, très régulièrement, et c'est eux qui font vivre le tournage. Mais en fait, tout coûte cher et tout est payant, même pour avoir le moindre lieu ou quoi que ce soit, et c'est ça qui est très compliqué. Et c'est en ça que je dis qu'on tente des choses, en fait. Quand moi, ce projet que là j'ai fait cet été, Méprisable, je le suis fait financer par un fonds privé, mais en fait ça a coûté très peu d'argent parce qu'on a tout fait pour économiser un maximum d'argent.
Alors justement, parlons du projet que tu as réalisé, qui s'appelle Méprisable. C'est le nom de la série de trois courts-métrages que tu as réalisé avec 9 étudiants en BTS audiovisuel. Donc, tu peux nous en parler juste.
Alors, en fait, Méprisable, c'est une série de trois courts-métrages qui mélangent analyse cinématographique et fiction. Et le but de cette série, en fait, c'était de parler de certains sujets de société, de parler aussi de cinéma. Et en fait, du coup, c'est en ça que c'est un mélange entre analyse cinématographique et fiction, parce que chaque épisode est basé sur un film. Et dedans, on suit 5 amis qui, ensemble, vivent leur vie ensemble. C'est 5 meilleurs amis qui sont dans des lieux habituels et qui, en fait, se mettent à débattre de sujets de société. Et ils utilisent l'analyse de certains films pour étayer leur débat et rajouter des arguments à leur discussion. Par exemple, l'épisode 1 est sur la haine. On va parler dedans de l'influence des médias et de des violences policières. Et eux, au début, se mettent à débattre de ça. Et ils vont utiliser telle scène, tel personnage pour étayer leur discussion. Et en fait, il faut vraiment voir tout ce projet comme un essai. Moi, vraiment, je l'ai fait dans un but en me disant « Ok, je viens de passer un an en BTS audiovisuel. Concrètement, je connais rien du cinéma. J'ai juste l'envie. J'ai appris quelques... Je viens de passer un mois de stage. Ok, j'ai appris à faire de la lumière de fiction. Mais c'est tout. Mais vas-y, faisons un projet de l'intérieur du cinéma pour se dire « Ok, comment ça marche ?» Parce que la meilleure manière de le voir, c'est de le faire.
Exactement.
Donc le faire sans argent, avec très peu de connaissances, mais le faire à tout prix. Aller jusqu'au bout du projet à tout prix, quel qu'en soit le résultat, et en se disant que de toute façon, notre réussite, c'est qu'on ait réussi à faire ce projet. Et c'est ça qui était assez intéressant à faire. Mais en fait, c'est un essai déjà pour apprendre au cinéma, mais aussi un essai pour commencer à parler de cinéma et à analyser des films, parce qu'une des meilleures manières de refaire un film, d'apprendre à faire la lumière, des cadrages, c'est de refaire des fois des plans et des séquences qui existent déjà de certains films. Et aussi commencer à parler de certains sujets de société dont j'ai pu parler dans les films, qui moi me touchent et dont j'ai vraiment envie de parler, dont je peux écrire par la suite d'autres histoires. Mais voilà, commencer à réfléchir sur ces sujets-là, voir comment je peux marcher, et après s'entraîner aussi à la réalisation, l'écriture et à monter un projet de A à Z.
Bien sûr.
On va écouter un petit morceau de musique et on revient tout de suite après pour parler encore à nouveau cinéma, court-métrage et de la série de trois court-métrages méprisables.
À tout de suite.
Of all the boys, of all the boys, boys, of all the boys, 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 of all the boys, of all the boys I've known, and I've known some. First met you was lonesome. Came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere vista shame, please let me explain. By mere vista shame means that you're grand. By mere vista shame, again and again, means you're the fairest in the land. I could say bella bella, even say wunderbar. Each language I'm leak out to show how wonderful you are. I try to explain by mere vista shame, so kiss me so you'll understand. How can there be a virgin isle?
Diggy diggy doo, diggy doo,
diggy diggy doo, diggy doo.
Kiss me, baby, by
Nous sommes sur le plateau de Fréquence Mistral en compagnie de Mathéo Rieux et de Maxime Hutin. Maxime, tu souhaitais dire quelque chose ?
Pas forcément, non. On discutait de la différence entre court, long et moyen métrage. C'est vrai qu'au début de l'intervention, tu avais stipulé que du coup il y avait des courts métrages entre 5 minutes et 1 heure, pas trop quoi. Oui. Et qu'au-delà, du coup, c'était des longs. Et c'est vrai que souvent j'avais entendu la notion de moyen métrage.
Oui.
Du coup, je voulais poser la question de est-ce que c'est vraiment un vrai terme ou.
Je pense que non. On peut, après, si tu fais, je pense, mais Mathéo peut nous dire aussi, si tu fais un 45 minutes, tu peux dire que c'est un moyen métrage, mais ça reste
en général,
un
court métrage. Ça, on compte environ entre 0 et 30 un court métrage, entre 30 et 1 heure un moyen et plus d'une heure un long. Mm-hmm. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de vraies catégories à noter dans les festivals. De toute façon, c'est souvent sur la durée aussi. On va te dire, ok, pour concourir à ce festival, c'est entre 10 et 30 minutes.
Oui.
Voilà, en dessous de 10 minutes, ça va être un autre festival. Donc, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas une loi qui dit, ok, moyen, c'est de 30 à 1 heure. C'est des façons de discuter, de parler. J'ai fait un plus gros projet, par exemple.
Par contre, le documentaire, c'est 52 minutes. C'est pas 50 minutes, c'est pas 53, c'est 52 minutes. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Alors il doit y avoir une raison, mais c'est comme ça. 52
minutes. Le pauvre
minutes.
Monteur qui doit faire 52 minutes tout pile.
Et le réalisateur aussi, oui, oui.
Et c'est, la script qui doit tout vérifier, qui est au chrono derrière.
Ouais, mais à la limite, ça, tu vois, ça peut se rattraper au montage. Genre, tu dégages un peu des plans ou tu coupes.
Oui, mais si t'en as trop.
Ouais, c'est trop.
Si t'en as en dessous, sur les tournages, t'as les scripts avec les chronos qui vérifient que la chaîne, elle a demandé 52 minutes. La chaîne, elle a payé pour 52 minutes, elle veut 52 minutes. Donc elle vérifie. Parce que si tu te retrouves avec 49 minutes de rush qui marche, tu fais quoi ? Et la chaîne, elle a payé pour 52. Donc elle est garante de ça, la script.
Du coup, il faut faire plus tout le temps.
Oui. Alors revenons à Méprisable. Qu'est-ce que tu peux nous. Donc, comment s'est déroulé le tournage? Sur combien de temps?
En fait, ça a commencé. Moi, ça venait d'une envie que j'avais de. Je vous dis de parler de cinéma et d'essayer beaucoup de choses, en fait. Donc, j'avais appelé des amis. En fait, il y a 4 films et 3 épisodes. Le premier épisode est sur La Haine, le deuxième sur Les Misérables et Bac Nord, et le troisième épisode sur Fight Club. Et en fait, on s'est vu 4 soirs d'affilée avec 5 amis à moi, et on a regardé les films. En fait, on en a discuté entre nous, on en a débattu, et on peut même retrouver certains des débats qu'on a pu avoir au cours de ces soirées. On peut même les retrouver dans le court-métrage par moment. Et c'est venu d'une envie de vraiment de parler de cinéma et d'essayer énormément de choses, et ça a commencé en fait il y a un peu plus d'un an maintenant, les premières fois que j'en ai parlé, et après beaucoup de mois de pré-production où on essaye tant bien que mal de choper des autorisations, de trouver ce qu'il faut. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, j'ai voulu le tourner dans le sud de la France, à Hyères-les-Palmiers, là où j'habite, parce que c'est là où je peux avoir le plus facilement ce que je veux. J'ai réussi à avoir tous les décors que je voulais assez facilement, gratuitement. J'avais mes amis qui étaient là pour faire la figuration, pour venir m'aider. J'ai eu beaucoup de chance sur ça. J'ai tous mes potes qui venaient tous les jours sur le tournage pour faire la figuration, pour faire des blocages, pour ramener du décor ou quoi que ce soit, et sur ça c'était une facilité, mais du coup beaucoup de mois de prépote parce que mon BTS est au-dessus de Paris et les gens venaient d'au-dessus de Paris, donc comment on fait pour préparer tout ça à distance, moi qui suis sur place mais moi qui suis tout seul, donc beaucoup d'erreurs de fait, mais qui m'ont vraiment appris. Pour moi, c'est vraiment le projet qui m'a le plus appris actuellement, et grâce à ça on fait des projets aujourd'hui qui, sans ce projet de Méprisable, n'auraient pas été tels qu'ils sont aujourd'hui. En fait, c'est vraiment grâce à tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu essayer, réussir ou échouer, qu'aujourd'hui on en est là et qu'on arrive à faire des projets, et que je parle de me faire financer mon prochain court-métrage avec certains producteurs, avec des amis ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est vraiment cool. Enfin, avec ce projet, en fait, malgré quel que soit le résultat, c'est hyper intéressant, en fait. C'était vraiment c'est un bon souvenir pour moi, et c'était vraiment intéressant de le faire, et je suis très content d'avoir fait ça, parce que aujourd'hui ça m'a beaucoup appris.
Ouais, bien sûr, c'est la meilleure formation à faire. Il n'y a pas de meilleur moyen pour apprendre que de pratiquer, en fait, simplement.
Et le tournage, c'était un peu. Alors, il y a mille anecdotes de galère, évidemment, mille anecdotes de rire et de pleurs aussi. Mais on s'est retrouvé du coup 6 jours de tournage du 18 au 24 août l'année dernière, avec une équipe technique de 9 personnes à tourner 6 jours à des journées entre 15 et 18 heures. Enfin, on dormait 2 heures
minimum.
C'était. c'était magique, c'était très drôle. On rentrait à l'appart, on était neuf, en fait on était tous sur les nerfs. À la fin on pouvait plus voir parce qu'on était tous fatigués, et à la fin de la semaine on était tous trop contents, mais c'était assez fou, c'était assez stressant, assez prenant en termes de conséquences en fait, de ce qui pouvait, en fait la moindre erreur pouvait faire capoter le tournage. Donc moi toute la semaine j'étais en mode ok, il faut qu'il se passe rien de mal, et s'il y a un problème faut qu'on le règle très rapidement, parce que on est très serré aussi dans les timings malgré le fait qu'on fasse des journées de 15 à 18 heures en plus on était une équipe de technique de 9 personnes. On était en sous-dôme parce que moi je devais loger les gens chez moi parce que j'avais pas les moyens de payer tout un hôtel pour payer toute une équipe, donc on était que 9, ce qu'il faut savoir est très 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 peu pour un court métrage. En général, on est plus d'une vingtaine, même plus par moment sur les tournages, donc c'est rien. Et on avait tous en fait 1000 casquettes. Moi, je me suis retrouvé réalisateur, mais premier assistant réalisateur aussi, mais aussi chef décorateur, repériste. Enfin, j'avais tous les postes, mais à la fois le chef opérateur faisait 1000 postes en même temps, et en fait tout le monde faisait 1000 postes en même temps. Donc c'était à la fois très formateur, on a pu se rendre compte un peu de tout, et à la fois ça fait plaisir. Là récemment, on a tourné un clip avec certaines des personnes qui étaient là cet été. C'était plaisant, on était beaucoup plus en termes d'équipe, et chacun faisait son travail à fond comme il fallait. Et moi, à un moment, je me suis retrouvé à être un peu perdu pendant la préparation de ce clip. Là, il y a quelques mois, j'étais perdu, j'avais rien à faire à un moment. Tout le monde travaillait autour de moi, j'avais fini mon travail, j'avais réalisé, j'avais préparé tout, et je voyais le directeur de prod, le premier assistant réalisateur, qui galérait dans les plannings, les autorisations, et moi, j'étais là, mais les gars, je veux vous aider. Il me disait non, mais c'est pas ton travail. Et ça m'a fait super bizarre parce que cet été c'était la guerre en fait.
Oui.
Et c'est ça qui est très plaisant. On a vraiment beaucoup appris de ça.
Oui, oui. Et justement, après, quand ça te permet sûrement, quand tu travailles avec un chef op ou autre, si tu as fait au préalable ce travail-là parce que tu as eu 1000 casquettes sur les premiers courts-métrages, tu sais exactement ce que vit le chef op, etc. Ça te permet de connaître un peu tous les métiers avec lesquels tu vas travailler.
C'est super important, en fait, je pense.
Actuellement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que évidemment, pour vivre de pour l'instant, pour pouvoir manger, je travaille à la technique. Donc moi, je travaille majoritairement en électro sur des tournages. Mmh. Et moi, ça m'intéresse vraiment d'être sur des gros tournages par moment parce que je vais parler à tout le monde. Je pose des questions à tout le monde, que ce soit la prod, les ingé-sons, alors que je ne ferai jamais de son. Mais pour comprendre, en fait, et tout ce que je vois, que je trouve bien sur les grosses productions, je les reprends pour nos courts-métrages et je les implante dans nos courts-métrages en essayant d'apprendre de ça et voir comment on peut améliorer. Et je trouve ça hyper important, comme tu as dit Nathalie, de voir de savoir ce que les autres font. Tu peux pas être expert partout, donc tu peux pas être le meilleur dans tous les postes, c'est impossible, mais au moins de comprendre ce qu'il faut faire. Je pense qu'un chef opérateur, s'il sait pas ce que son premier assistant caméra fait, s'il sait pas comment ça marche le point, au moins ça marche, c'est compliqué de discuter avec lui. Et c'est bien, il faut avoir un bon premier assistant caméra qui va savoir t'aider dans le point, dans le choix des optiques et des filtres par exemple. Mais en fait, si tu sais pas discuter avec lui, c'est compliqué. Et moi, je sais que j'ai essayé un peu sur les courts-métrages, j'ai essayé un peu de changer. Alors j'ai mon poste que je fais régulièrement, mais j'essaye de des fois aussi, quand je suis appelé à la technique, de partir à la caméra, de partir à la lumière. Si on m'appelle demain sur un travail en régie, sur un tournage, que j'ai vraiment je trouve ça partant, j'y vais pour un peu apprendre aussi comment voir. Ça permet aussi de faire du contact, mais je trouve que c'est vraiment, et aussi être conscient de tout ce qu'il y a derrière, du travail de chacun en fait.
Maxime, tu es d'accord avec ça? Tu es compositeur, toi?
Ouais. Moi, je suis compositeur. Mais surtout, c'est très important d'avoir, pas forcément de comprendre, mais d'avoir conscience des autres. Et, parce que, surtout d'un technique, à vrai dire, mais on a tendance à parler pas le même langage, en fait. Tu vas parler à un compositeur, il va te parler musique, tu vas rien comprendre. Tu vas parler au chef op, il va te parler un autre langage. Du coup, réussir à communiquer ensemble, c'est aussi ce qui fait la bonne réussite d'un projet. Et donc, avoir conscience et connaissance un peu de ce qui se passe en dehors de notre poste à nous, c'est super important. Après, normalement, un bon técos, il est censé adapter son langage, hein, et savoir exprimer avec des mots simples ce qu'il fait. Mais c'est super bien de toucher un peu à tout comme ça.
Toi, par exemple, en tant que compositeur, tu travailles aussi avec d'autres personnes, donc
la vraie difficulté en tant que compositeur, c'est de traduire l'intention du réal en langage musical, parce que lui, il parle pas forcément. Il y en a qui sont musiciens, mais pas tous. Donc c'est la grosse part du travail, c'est de traduire son propos pour faire en sorte que la musique fasse parler l'image et pas l'inverse. Parce que dans le ciné, la musique appuie le propos. Elle est pas là uniquement pour habiller. Elle est là pour exprimer l'intention du réal. Et vu que l'image peut pas tout dire, la musique vient rajouter une couche au niveau de la lecture, quand c'est bien fait.
Oui, et aussi, alors... être conscient du travail de chacun, de la charge de travail qu'on demande à chacun. Je vais citer par exemple la régie. La régie, c'est sur les tournages, c'est ceux qui s'occupent de... en fait, qui sont les garants de l'organisation du tournage, qui font en sorte que tout se passe bien. Et c'est ceux qui vont le matin, c'est eux qui ont les clés du décor pour que tu arrives, qui font en sorte que les camions remplis de matériel soient là, mais qui vont aussi faire les blocages quand il faut bloquer une rue, qui vont te servir. Il y a la, ce qu'on appelle la table régie, c'est la table où il y a à manger, à boire toute la journée pour le tournage. C'est eux qui sont garants de ça. Et c'est eux, en fait, qui te servent. C'est un peu le rôle ingrat d'un tournage. Et en fait, si tu sais pas ce que c'est, l'importance que ça a, la régie, sans une régie, on ne tourne pas. Personne connaît ce poste, mais sans, il n'y a pas de régie, on ne tourne pas. Et c'est un enfer. La bouffe, c'est le nerf de la guerre sur les tournages. Quand la régie, elle est, quand la table régie, elle est pas bonne, l'équipe technique, elle est pas contente.
Et tout le monde s'insulte.
Et non, mais c'est, ça, ça peut, c'est vraiment, c'est, tu peux voir à la réussite d'un tournage si la régie était bien ou pas. C'est, sans le savoir,
non, des fois, c'est assez marrant. En fait,
et être conscient du travail de chacun. Et savoir que voilà, eux ils font ça, ils te servent ton coca parce que c'est normal de servir ton coca, mais voilà, c'est pas un, c'est pas un, une sous-merde, il est pas en dessous de toi, clair. T'es pas son chef.
C'est un vrai travail d'équipe.
Un vrai travail d'équipe.
En fait, le monde de l'audiovisuel de manière générale, en fait, c'est une grosse horloge. Et s'il y a un seul engrenage qui est défaillant, il y a plein qui marchent en fait.
Je vais citer un ami à moi qui m'a dit une phrase il y a quelques mois qui depuis m'est restée dans la tête, c'est que le cinéma c'est un art participatif. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est à prendre en compte dans sa tête. C'est que tu peux pas tout faire tout seul et il faut se faire aider. Il faut vraiment le comprendre. C'est compliqué, c'est très compliqué en plus de déléguer un projet. Par exemple, sur Méprisable, c'était compliqué. Moi, c'est la première fois pour moi que je devais déléguer vraiment des tâches à quelqu'un et savoir faire confiance. Quand tu donnes par exemple le budget de ton film à un directeur de production, tu te dis, mais s'il faut avoir le budget qui fait n'importe quoi, moi, mon film, il est mort. Mais en fait, faire confiance, moi, j'ai dit là actuellement, je recherche un peu un chef opérateur avec qui je travaille. Régulièrement et avec qui je pourrais avoir confiance parce que c'est le mec qui est garant de ton image et de la technique de tout ton tournage. En fait, le chef opérateur, c'est le chef de toute l'équipe technique, c'est lui qui décide tout ce qu'on fait à la technique. Et il faut savoir déléguer, c'est très très compliqué. Et moi, j'apprends encore un peu à le faire, c'est très compliqué. Et c'est en ça qu'il faut vraiment avoir cette notion d'art participatif à tous les niveaux du tournage. Savoir faire confiance,
exactement.
Notamment, je pense, toi qui es compositeur, savoir faire confiance à ton compositeur quand il te propose de la musique. C'est très compliqué. Moi, j'essaye d'avoir des connaissances en musique et des nuances pour pouvoir parler avec les musiciens qui font les musiques de mes films. Mais en fait, j'y connais rien. Je peux pas tout connaître.
Bien sûr.
Savoir te faire confiance, par exemple, si tu composes une musique pour mon film, toi qui as de l'expérience, qu'est-ce qui va pouvoir apporter de mieux à moi qui n'y connais rien.
Alors, est-ce que je te pose une question, Maxime, par exemple, pour pouvoir comprendre un réal par rapport à la musique, est-ce que ça va t'aider? Est-ce que, par exemple, parce que là, effectivement, Mathéo nous disait qu'il ne va pas parler à proprement technique de la musique lorsqu'il va exprimer ce qu'il souhaite. Est-ce que toi, ça t'aide si le réalisateur te parle émotion?
Ben en fait, le gros travail mon gros travail en tant que compositeur, avant de vraiment de la petite technique où je me pose devant la partoche et j'écris, c'est de discuter en fait. Moi, ce que je veux, c'est que le réal, il me parle de son film, il me parle de...
Qui donne ses émotions,
de ses émotions, envies. De la démarche.
Voilà.
Il y a un exemple qui revient souvent sur... c'est un réal très connu, hein, c'est Nolan avec Zimmer, sur Interstellar. L'idée... Interstellar, c'est un film de science-fiction, il part dans l'espace.
Je ne connais pas.
Un classique.
Un classico. Et en fait, pourquoi la musique est aussi bien? Tout simplement parce que le réal, du coup, Christopher Nolan, a parlé avec le compositeur. Il lui a dit, non, mais en fait, en effet, c'est un film de science-fiction, mais le propos du film, c'est pas ça. Le propos du film, c'est une histoire entre un père et sa fille. Cette relation-là, avec le temps qui passe, avec tout ça. Et du coup, il lui a écrit une lettre au compositeur. Et il s'est basé là-dessus pour faire la musique. Il s'est pas basé sur les images où il a fait, il y a des vaisseaux spatiaux, ils ont pu faire du grandiloquesque à la Star Wars ou quoi. Mais non, il s'est basé sur vraiment la discussion avec le réal, du coup, quelle était vraiment l'intention du film, quel est le propos du film, quelles sont les émotions qu'il veut transmettre dans le film.
Et je pense que si on parle trop technique, quand ton interlocuteur, le réalisateur, te parle trop technique, en fait, t'as envie de dire, mais c'est mon travail. Dis-moi ce que tu veux.
Ouais,
et moi, je sais que je fais chef opérateur aussi régulièrement sur des courts-métrages. Quand le réal, il commence à me parler technique, je dis, arrête, dis-moi ce que tu veux. Donne-moi ton intention artistique, c'est mon travail. C'est pas à toi de t'en occuper. Donc, déjà, reste focus sur ton job à regarder ton. Sinon, ça ça te donne trop de postes en fait. Et en plus, c'est mon boulot. Donc, mais t'inquiète, fais-moi confiance, trouvons ça. Et je pense que si moi demain je viens te dire, ok, baisse les infrabasses à ce niveau-là, machin, je te dis tout, bon bah
je vais le faire, mais je
vais faire. Sinon, tu vas me dire, ouais, bah fais-le ta musique. C'est donc voilà, je suis là pour. Donne-moi tes émotions, tes envies.
C'est ça, mais du coup, les meilleurs projets que j'ai pu faire, en fait, au final, c'est. Ou du moins, le rendu est-il plus cool. C'est quand juste au début du projet, je me suis posé avec une bière avec le RL et on fait, ok, ben, parle-moi de ton film maintenant. Qu'est-ce que tu veux exprimer? Pourquoi tu l'as fait? Parce qu'il y a aussi du vécu. On met de notre vécu dans notre art, que ce soit de la peinture, de la réal, de la musique, de la danse, peu importe. On met notre vécu et nos expériences dans notre art. Et du coup, ça m'intéresse aussi de connaître la personne qui elle est.
Bien sûr.
Pour dire, ok, tu fais ça parce que ça.
Oui, parce qu'il y a un être humain derrière un réalisateur. Alors, je voudrais juste appuyer ton propos. Le cinéma, l'image animée, ce n'est pas seulement des images. Le son est tout aussi important.
C'est pour ça qu'on parle d'audiovisuel.
Ok, mais c'est bien de le préciser. Un petit Jamiroquai Drifting Along et on revient tout de suite à la discussion.
Merci.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Mistral. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Et merci de nous écouter si vous êtes là depuis le début de l'émission. Car ce matin, nous recevons un second invité, Matteo Rieux, un jeune réalisateur de court-métrage. Il vous parlera de ses projets parce qu'il est en train de réaliser aussi un documentaire. Bon, tout ça, on va en parler. Voilà, qui est venu nous présenter son travail. Et sur le plateau également, Maxime Hutin, technicien à Fréquence Mistral. Alors,
toujours debout.
Pardon ?
Toujours présent, toujours debout. On est là.
Ça, c'est vrai. Matteo, on a parlé des réalisateurs qui pouvaient vous inspirer. Je me posais une question. À quel autre médium vous êtes sensible ? L'écriture, la peinture, la musique ? Parce que quand on est artiste, chaque médium peut être nourrissant ou inspirant.
Moi, j'écoute beaucoup de musique de tous les styles. En ce moment, je suis en train de me forcer à enlever mon casque dans la rue pour écouter la vraie vie un peu quand je marche dans Paris, parce que en fait, je me rends compte, j'ai toujours mon casque à réduction de bruit, de la musique forte dedans, et j'écoute vraiment tous les styles. Alors, j'écoute en particulier régulièrement, on va dire, du rap français, mais j'écoute aussi beaucoup de classiques ou de pop à plein de moments. Des fois, je surprends mes potes qui m'entendent écouter certaines musiques, c'est assez drôle, et donc je suis très inspiré par ça. Et aussi, notamment, j'adore la danse. Je trouve ça, j'aime vraiment beaucoup la danse. J'en fais pas, mais tous les styles de danse, alors en particulier aussi le hip-hop, le breakdance, le crumb, tout ça, toute cette culture urbaine autour de la danse, j'aime vraiment beaucoup. Mais je peux être aussi très attiré par regarder de la danse classique ou quoi que ce soit. Et un instrument de musique que j'adore, c'est le piano. J'écoute ça tout le temps, surtout quand j'écris, quand je travaille. J'adore ça. J'aimerais en faire un jour, peut-être, quand on aura plus de temps, j'apprendrai à en faire. Mais voilà, c'est les deux médiums, on va dire, qui me touchent le plus. Et en ce moment, j'essaye d'aller un peu plus au théâtre et de regarder un peu plus le théâtre, parce que je trouve ça très intéressant de regarder comment le théâtre est mis en scène, par rapport justement au cinéma et à ce que ça peut m'apporter. Il y a beaucoup de pièces qui sont très intéressantes, qui peuvent m'enrichir culturellement et m'aider pour l'écriture et pour la mise en scène, et j'essaye d'y aller un peu plus. J'ai pas l'occasion d'y aller régulièrement, mais voilà, maintenant que je suis à Paris, je me dis que j'aurais peut-être un peu plus, il y a beaucoup de théâtre, il y a souvent des représentations, je me dis que je peux essayer d'y aller un peu plus.
Oui, parce que vous avez grandi à Hyères-les-Palmiers, une très belle ville, les Hyérois que nous saluons au passage, et maintenant, vous êtes sur Paris.
C'est ça.
Donc, revenons à Méprisable, justement, pour parler de Hyères-les-Palmiers, il a été diffusé en avant-première.
C'est ça, en fait, Méprisable, du coup, a été diffusé en avant-première le vendredi 26 avril au Théâtre Denis de Hyères-les-Palmiers. Et on a fait toute une soirée d'avant-première pour présenter cette série-là, où on a diffusé les trois courts-métrages. Et moi, mon objectif pour cette soirée-là, c'était pas juste de montrer un film, que j'en vienne, on regarde le film et on s'en va. Je voulais vraiment faire un show et que coûte, les gens sortent de la salle en disant « Ok, c'était incroyable, j'ai passé une super soirée ». Et ça a été plutôt réussi, j'ai eu beaucoup de bons retours sur tout l'ensemble de la soirée. Les gens s'attendaient pas du tout à ce que j'avais mis en place et étaient assez surpris. Et en fait, du coup, j'ai appelé un pote à moi, Wabe Kaba, qui est humoriste sur Paris, qui est venu, qui était le MC de la soirée, qui a présenté tout le monde. Il a fait un one man show au début. Moi, je suis monté sur scène du coup avec des danseuses de hip-hop, donc elles ont fait une petite choré, et à la fin je suis monté, on a présenté le film, on en a parlé, on l'a visionné, à la fin il y a eu des échanges avec le public, et c'était vraiment une super soirée. Bon, après c'était en plus, on était dans une salle mythique un peu de hier, qui est le Théâtre Denis, qui est un théâtre vieux de 200 ans, qui est magnifique. J'ai bataillé pour avoir ce lieu là je voulais vraiment le théâtre, et je voulais pas un cinéma basique, une salle de cinéma basique. Je voulais vraiment un lieu qui a de la vie, quitte à perdre un peu en qualité d'image et en qualité sonore, mais vraiment ça rajoute une ambiance, en fait, de rentrer là, et c'était vraiment super. Après, bon, il y avait évidemment tous mes potes dans la salle, toute ma famille, et ça, c'était génial aussi. Forcément, quand ça crie, quand Waibi m'annonce sur scène, il y a toute la salle qui crie, qui fait un maximum de bruit. C'était hyper, hyper kiffant. Et j'espère pour les prochains pouvoir en refaire ailleurs. J'ai dit que de toute façon, même si plus tard je suis une star du cinéma, je reviendrai ailleurs à chaque fois pour présenter un film.
Il ne faut jamais oublier ses origines.
C'est très important. Oui. Savoir d'où on vient, pour se rappeler d'où on vient, pour savoir où on va, très
exactement.
Important. Très important. Et aller le plus souvent, je veux revenir à chaque fois hier, mais j'aimerais faire des représentations aussi à d'autres endroits. Et je sais que les représentations des films que je veux faire, je veux pas juste présenter un film à chaque fois, et j'essaye que l'avant-première rajoute quelque chose à l'intention artistique qui est apportée par le film. Là, le but, bon, c'était de tester des choses. C'était tout autour de la culture urbaine. En plus, c'était, ça a été fait pendant dans le cadre du festival sur la culture urbaine hier. Donc, ça allait dans le thème. Donc, j'ai ramené du coup un humoriste, des danseuses de hip-hop, tout ça. Et pour les prochains, par exemple, si on fait un film, je sais pas, un court-métrage sur la tristesse, bah, essayer que toute cette. De mettre les gens dans une ambiance tout le long, soit par des happenings, des activités qui vont être proposées, soit par une ambiance sonore, musicale, un lieu différent, pour rajouter et amplifier l'intention artistique qu'on essaye d'apporter par le film.
C'est ouais, une c'est... vraie proposition.
Ce qui correspond bien au final, parce que d'après ce que j'essaie de cerner un peu, du coup, quel style de cinéma, même si j'aime pas ce mot, mais du coup, qui est très social, au final, c'est ce que tu aimes, le ciné très social, et au final, faire des events comme ça, avec beaucoup d'happening et tout, ça colle à la DA, on va dire, du truc.
Bah en fait, moi, ce que je dis souvent, en rigolant, c'est que moi, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est de faire kiffer les gens. Et en fait, je pourrais... Le cinéma, j'ai remarqué que c'est un prétexte. Alors, j'adore les films, j'adore écrire des histoires, et ça me permet, moi, le cinéma, de pouvoir vivre des vies que j'ai pas vécues, soit de parler de sentiments et de choses qui me tiennent à cœur, de pouvoir en parler en images, soit même des fois j'écris des films, c'est pas ma vie, c'est pas ce que je vis, bon, forcément il y a toujours des bribes de moi, mais de vivre des vies que j'aurais jamais vues. Moi je me retrouve depuis que je suis petit à kiffer devant des films parce que je regarde un film de braquage, j'ai l'impression d'être un braqueur, ouais, je regarde un film de trader, j'ai l'impression que je suis un trader, enfin de n'importe quoi, et ça me fait kiffer. Je m'en rappelle le dernier Creed 3, je ressors, c'est un film de boxe, je ressors, j'étais motivé, j'avais envie d'aller faire du sport, et j'ai l'impression que j'étais un sportif de haut niveau.
Il s'est installé
alors que après j'ai regardé mon corps, j'étais en mode non, mince, ça colle pas avec lui. Mais voilà, c'est le cinéma, j'adore en faire, mais j'ai remarqué que c'était un prétexte pour faire kiffer les gens et faire vivre quelque chose à quelqu'un. Et à l'avenir, pourquoi pas même un jour faire du théâtre ou faire totalement autre chose pour plus tard, pourquoi pas. Vraiment, j'adore ce que j'aime faire, c'est faire vibrer les gens. Là, quand je suis sorti de la salle, tout le monde m'a dit, mec, c'était fou, t'as ramené des danseuses, une humoriste, c'était grave drôle, c'était grave cool. Et ça m'a fait kiffer juste le fait que les gens soient contents d'être venus ici. Plus que, limite, en fait, on m'a pas forcément donné beaucoup de retours sur ma série, mais juste sur la soirée en général, et c'était ça l'objectif.
Oui, en plus, on a besoin, par les temps qui courent, de beauté, d'émerveillement, de joie et de rassemblement, d'être ensemble.
Pas trop
ensemble.
De rassemblement, si possible.
Non, mais... d'être ensemble, voilà ce que je voulais dire.
Non, mais l'idée... mais je pense que c'est l'idée de l'art, c'est de regrouper, de faire un peu des moments d'évasion pour tout le monde.
Et c'est universel.
Et c'est universel. Et comme tu dis, quand tu dis le cinéma, ça me permet de vivre les vies que j'ai pas vécues, c'est ça qui est beau avec le cinéma.
C'est l'usine à rêve.
C'est ça. Et le principe de la fiction, c'est de vivre des histoires qu'on n'est pas habitué à vivre. Y a parfois des trucs qui sont un peu trop grandiloquesques, mais de manière générale, je trouve que c'est le principe du cinéma, justement, c'est d'essayer de s'évader un peu, que ça soit dans un truc très social, comme dans du grand spectacle.
Ce qui est assez drôle, c'est que, en fait, moi, les films que j'adore, je dis, c'est des films que je pourrais vivre. Quand je regarde La Haine, bon, évidemment, j'ai pas tué un flic. voilà, enfin, cette histoire-là, non, mais le fait d'être avec trois potes dans la rue, à sortir tard le soir, être un peu en galère parce qu'on loupe le dernier métro, tout ça, enfin bref, c'est des histoires qui peuvent nous arriver et je me retrouve, en fait, dans ces trois personnages-là. Là et dans les caractères que chacun peut avoir, et en fait je vis une vie que je pourrais vivre un peu en regardant ce film, c'est mais ça. À la fois des fois ça me fait ce qui est drôle, c'est que je dis que le cinéma me permet de vivre des vies que j'ai pas vécues, et à la fois ce que j'aime c'est les films qui me font vivre ce que je pourrais vivre, mais à la fois c'est voilà, La Haine, je vis pas dans La Haine et ça me donne l'impression d'être dans
non,
La Haine.
Non, mais ça empêche pas de du coup c'est un film qui a marqué en plus hein, à l'époque quand il est sorti, mais d'embarquer. Le but, quel que soit le médium, n'est-ce pas d'embarquer l'autre dans son de l'embarquer complètement, quoi.
Et des films comme La Haine aussi font beaucoup réfléchir à la situation actuelle. Moi, je suis pas un grand fan de La Haine, mais tu vois, mais en comparatif, je suis un grand fan de American History X.
Je connais pas du tout, j'ai pas vu.
C'est un super film. En gros, c'est plus ou moins, on va dire, c'est un truc très social, mais c'est américain, du coup, avec Edward Norton notamment.
Ok, je vois.
Et ça parle justement des skinheads en Amérique. Et le film est incroyable au niveau social, il te porte.
Ok, tu me redonneras le nom parce que ça, je regarde beaucoup de films en ce moment sur justement sur les skinheads, sur l'extrême droite, tout ça. Je regardais il y a pas longtemps This Is England.
Ouais.
On m'en donne beaucoup en ce moment de rêve, donc ouais, ça m'intéresse beaucoup.
Et c'est un super film au niveau de la réal et tout. Et ça te. Ça, j'ai pas dit que ça te fait vivre une vie parce que aucune envie d'être en skinhead, mais en tout cas ça te plonge dans un univers qui est ouf, avec des vraies questions sociales, le pourquoi du comment, et c'est trop intéressant.
Alors, moi, c'est ça que j'aime en vrai. Alors, j'adore les films évidemment qui me font, qui me divertissent. J'adore regarder un Marvel, j'adore regarder un Fast and Furious qui va me faire kiffer et rigoler. Mais ce qui me touche le plus, c'est ce que j'essaye de faire moi dans mes films, c'est de justement parler de sujets de société et d'aborder certains aspects des fois, enfin. Par exemple, dans l'épisode, dans cette série, dans Méprisable, je parle des sujets qui sont abordés, notamment il y a le traitement des quartiers populaires, mais en fait le traitement aussi des gens qui ont peu d'argent, qui vivent dans la misère. Et moi, je trouve ça très important, et je trouve que c'est une manière aussi de mettre en avant ces sujets-là, d'en parler, d'en discuter, d'en débattre. Moi, dans mes films, je donne ma vision de la chose, mais je suis ouvert au débat évidemment. Et c'est dommage. Je voulais de base, on avait essayé, mais ça a été très compliqué de le faire, mais on aurait aimé faire aussi une diffusion en avant-première à Paris. Et justement, on avait réfléchi alors à plein d'événements, on avait beaucoup d'idées. C'est pour ça justement que ça a été compliqué de le faire, c'est parce que c'était un gros événement qu'on voulait faire. Mais on voulait notamment faire un débat à la fin avec les gens, et même ramener des gens qui s'y connaissent un peu plus dans les sujets dont on abordait, pour parler des sujets qui sont abordés dans Méprisable, et pour débattre. Et je trouve que dans des temps où chacun est de son côté et on pense qu'à soi, c'est important d'aller écouter les autres et discuter, oui. Et plutôt que dire je parle pas aux cons, ça les instruit.
Non, peut-être c'est, justement, c'est super intéressant.
Parler entre nous pour évoluer et essayer de comprendre tout le monde, quoi.
Ouais, c'est super important parce que comme tu dis, au final, ce que tu fais, c'est que ta proposition artistique, c'est ta vision des choses, tu vois. Et du coup, avoir envie de proposer des débats, c'est super important et ultra intéressant. Et c'est vrai que souvent dans les films un peu sociaux comme ça, il y a soit des polémiques qui viennent à la sortie. Je pense à Bac Nord, que tu en parlais tout à l'heure.
Ah, j'ai pas aimé Bac Nord, mais c'est pour ça que j'en parlais justement.
Voilà, dans cette série. Moi, il m'a pas choqué plus que ça, le film. Mais je comprends tout à fait le propos du pourquoi du comment, et c'est très intéressant d'en parler.
Mais en fait, tu vois, justement, Bac Nord, pour le coup, pourquoi je l'ai mis dans Méprisable en parallèle avec Les Misérables, parce que c'est deux films qui parlent du même sujet globalement, mais de deux visions, notamment politiques, totalement différentes, exact. Et qui l'abordent de façons totalement différentes. C'est Alors ça. Moi, je me ressens beaucoup plus dans le propos de Les Misérables. Bac Nord, il y a une vision qui me dérangeait. Alors, le film, en soi, je l'ai bien aimé, mais j'en parlais notamment avec mon père, on l'a vu ensemble, et on s'était dit, ouais, faut le voir comme un film de divertissement. Faut pas le voir comme un documentaire.
C'est ça
que je trouve assez dangereux des fois avec le cinéma, c'est que quand on est trop proche du réel, les gens vont penser que c'est la vraie vie en fait, et faut faire très attention à ça, parce que dans Bac Nord, si tu écoutes tout ce qui est écrit dedans, tu peux avoir l'impression tu peux être influencé aussi sur beaucoup de choses, comme dans Les Misérables aussi, hein, évidemment. Faut savoir, je pense que c'est ce qui manque actuellement, c'est un peu discernement et réfléchir à ce qu'il y a derrière. Mais oui, dans Les Misérables, dans Les Méprisables, je parle de Les Misérables et de Bac Nord, justement par rapport à ce parallèle-là, à cette polémique un peu qu'il y a eu tout autour de Bac Nord. Et à la fois, c'est assez drôle parce que Les Misérables a gagné des prix à Cannes, et il y a eu un bon engouement parce que c'était aussi un des premiers films qui parlait vraiment du traitement des violences policières actuellement, aussi des violences policières filmées, de tous ces problèmes-là. Et deux ans après, il y a Bac Nord qui sort et qui divise vraiment, à la fois qui plaît énormément et qui à la fois divise totalement dans notre côté. C'est intéressant de les mettre en parallèle dans cette série.
Il ne faut pas oublier la base, c'est que ce soit Les Misérables ou Bac Nord, c'est de la fiction. Donc il y a un propos à tenir, et après il faut avoir un peu de discernement et regarder le truc pour ce qu'il est, un film. Pas un avis tranché, c'est un film.
C'est ça qui est important,
effectivement. Et je voulais rebondir juste vite fait sur ce que tu disais, parce que tu disais que tu adorais les films sociaux et que tu aimes bien aussi de temps en temps juste mater du grand divertissement, genre Marvel. Du coup, tu penses quoi des propos, par exemple, de Scorsese qui disait que justement, aujourd'hui, il n'y a plus de cinéma et que les films à la Marvel, que les films de super-héros ou les films d'action, Fast and Furious, tout ça, ne sont pas des films au final.
En fait, je trouve qu'on dénigre beaucoup les films, par exemple, notamment à comédie, les films comme ça, de divertissement, parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, bon, je vais citer un film français qui est sorti, le dernier Astérix et Obélix, qui, à la fois, moi, ça m'a énervé, parce que j'étais en mode, putain, notre plus gros budget français de l'année, ça part dans Astérix et Obélix, où c'est blague sur blague, ok, c'est cool, mais bon, voilà. Mais à la fois, il ne faut pas oublier que ça fait des entrées, et c'est ça, notamment, qui fait rentrer de l'argent dans les caisses du CNC. C'est pas les films d'auteurs qui font entrer le plus de gens, c'est ça qui fait qui nous permet aussi de nous faire financer des films. Il faut pas oublier, il y avait Kev Adams en interview qui parlait de Hala 2, qui, bon, voilà, c'est un film, en vrai, c'est un film de comédie. Alors, on aime pas, mais en fait, il a été énormément critiqué, notamment aussi parce que c'est un film de Kev Adams, tout ça. Mais lui disait, après, n'oubliez pas que c'est grâce à, notamment à la 2, que vous pouvez faire vos films et que vous avez les films que vous kiffez aussi. Et je pense qu'il faut pas oublier, moi, je me suis rendu compte récemment que j'ai regardé Voleuse sur Netflix. C'est un film avec Adèle Exarchopoulos et Marina Foïs. Qui est sorti dans l'année sur Netflix, et en fait j'ai vraiment adoré, j'ai passé un très bon moment devant, et pourtant c'est pas un film qui va être hyper recherché dans l'intention artistique, qui va vraiment dénoncer des sujets, qui va me... En fait c'est juste un film sur trois meufs qui sont des voleuses et un peu des tueuses en France. Elles vont en Corse, j'adore la Corse, je trouve ça magnifique, et j'ai passé un vraiment très bon moment. Et à la fin de ce film, je me suis dit, mais en fait, faut pas oublier aussi que le cinéma, c'est aussi se faire kiffer. Ouais. C'est pas que c'est chiant des fois quand c'est juste dénoncer, montrer. Faut pas oublier que je vais reciter un pote à moi qui m'a dit aussi un scénario, faut regarder et se dire, ok, est-ce qu'il est bien? Est-ce que je passe un bon moment quand je le lis et quand je regarde ce film? C'est con, mais en fait, on me regarde un film avant tout pour passer un bon moment et pas pour avoir un cours aussi. Et je suis pas d'accord avec Scorsese. Alors peut-être que j'ai pas la prétention de dire que je peux débattre avec toi actuellement, mais
aucun de nous.
Non, c'est des films. Je trouve que ça m'énerve quand j'entends un peu tous les cinéphiles qui disent non, moi Marvel, j'aime pas les Fast and Furious, j'aime pas, parce que j'ai l'impression que c'est plus un style qui se donne que vraiment ils aiment pas. Non, c'est important ces films-là aussi. Ça permet aussi d'ouvrir le cinéma à un plus grand monde parce qu'on n'est pas tous des cinéphiles qui kiffent des références et des procédés cinématographiques ultra recherchés. La plupart des films qu'on regarde et que le grand public regarde, c'est ce genre de film, et que même moi, la plupart des films que je regarde régulièrement, c'est ça en fait.
Mais justement, tu parlais de propositions tout à l'heure, Maxime, il y a des propositions, après ça plaît, ça ne plaît pas, on rentre en résonance ou pas, mais dans l'art, tout existe et il en faut pour tout le monde aussi.
Ouais, bien sûr, mais d'un cinéma, c'est vrai que ces propos des cinéphiles, comme tu dis, souvent ils critiquent ce genre de truc. Je suis persuadé qu'ils n'ont même pas vu un seul Marvel en vrai. Mais et aussi, comme tu dis, on a un système en France qui fait que du coup, les films comme ça, où, même si on n'apprécie pas ou qu'on apprécie peu importe, mais ça permet de faire rentrer l'argent dans les caisses et ensuite de financer des projets qui, eux, sont plus niches ou plus sociaux. Et du coup, c'est un système qui est...
Et à une heure où on parle de privatiser l'audiovisuel français, de retirer le statut d'intermittence, en fait, je pense qu'il faut se rappeler que la culture en France, c'est important, que tous ces statuts-là, c'est important, et que, notamment, le cinéma français... En Europe, on parle... Le cinéma dont on parle le plus à l'international, c'est le cinéma français. C'est peut-être aussi dû aussi à ce statut d'intermittence qui permet d'avoir des gens qui travaillent là-dedans. Et je trouve que...
Oui, c'est dû aussi parce qu'il y a eu... Enfin, le cinéma français, ça a été le cinéma français.
Oui, oui, dire, voilà. Mais faut pas mettre
c'est
la culture...
C'est pas rien, quoi. Alors maintenant, après, c'est différent, mais il a des grandes heures de...
Il y a eu la nouvelle vague et tout
la
ça.
La nouvelle vague,
pas, moi, je dis juste qu'il faut pas oublier de pas mettre... Enfin, faut pas mettre la culture en second plan. C'est important de garder ça.
Tu as totalement raison d'en parler tout à l'heure. Surtout
au niveau français. Hein. C'est vraiment ce qui nous fait rayonner à l'étranger. Hein.
Et faut pas oublier ça. Et toujours... alors oui, on a tous ces films-là. Et à des heures où on veut nous privatiser l'audiovisuel français et... On n'aura plus le CNC pour financer nos films. En fait, moi je suis pas d'accord. À la 2, c'est bien qu'il soit sorti. Alors on aime, on n'aime pas. Moi je suis pas allé le voir. Je sais pas s'il est bien ce film. Mais il a fait des entrées. Il a permis de ramener de l'argent. Et c'est peut-être grâce à ça que demain moi je suis financé.
Oui,
c'est
et les artistes ont besoin de soutien et de soutien financier.
Et tout le monde, il faut des films pour tout le monde aussi. Moi j'aime bien regarder des films qui parlent de sujets de société actuelle et qui me font réfléchir quand je sors. Mais voilà, il y a des gens aussi peut-être qui kiffent aller regarder un film comme ils regardent. Et comme je dis, moi la plupart des films que je regarde, c'est des films. C'est des Fast and Furious, des Marvel, des Astérix et Obélix,
pour
me faire kiffer, Harry Potter. Je me suis refait Harry Potter il n'y a pas longtemps. Et voilà.
Je vous propose d'écouter un dernier morceau, puis après on va revenir sur les actualités pour terminer notre rencontre. A tout de suite.
A tout de suite.
Are you here with me?
Et on se retrouve du coup à l'antenne de Fréquence Mistral où il y a eu un petit changement d'animateur. Pas d'inquiétude, Nathalie pas partie, on a juste échangé nos micros.
Voilà, donc je me retrouve en plateau avec Mathéo Rieux. Donc Méprisable va être diffusé sur YouTube.
C'est ça, dans quelques semaines, le dimanche 14 juillet, il sera diffusé. Donc il y aura tout d'abord l'épisode 1 et ensuite chaque jour, épisode 2, épisode 3. Donc lundi 15 et mardi 16, épisode 2, épisode 3 sera diffusé sur YouTube. Pour être visionné par un maximum de personnes.
Ok, donc quand on va aller sur internet, on tape dans YouTube les méprisables, court-métrage.
Voilà, méprisables, épisode 1, épisode 2, épisode 3, ils ont chacun un titre. Et le sinon aussi, si on peut le retrouver sur mon Instagram, il y aura forcément les liens en bio aussi, et qui amèneront directement à cette vidéo YouTube.
Ta chaîne YouTube, du coup, c'est quoi le nom de la chaîne ?
Je suis pas sûr parce que je l'ai pas encore créé. Si je l'ai créé, mais faut que je remodifie le nom. Mais mon Instagram c'est MattRx, M-A-T-T-R-X avec un petit tiré du bas. Et vous pourrez retrouver mon Instagram, mon actualité sur ce réseau social. Et notamment le 14 juillet, quand ça sortira, je mettrai les liens en bio et en story pour pouvoir retrouver cet épisode.
Super. Alors les projets en cours ou à venir, Mathéo ?
Alors actuellement, du coup, bon, j'ai emménagé sur Paris très récemment, mais je passe tout mon été dans le sud de la France. Et on est actuellement, je suis en phase d'écriture, de conception, de plein de choses. Donc j'écris notamment un court métrage qu'on va réaliser courant d'année prochaine, qui lui aura pour but justement d'être diffusé, d'être tourné en festival pour gagner des prix. Et à côté de ça aussi, je suis en train d'écrire et de me renseigner pour un documentaire qui sera tourné, je pense, juste après l'été prochain. Donc je suis en train de faire mes recherches, me renseigner pour ce documentaire-là. Et après, tout l'été, ça va être aussi beaucoup de rencontres et aussi prendre un peu des moments pour soi. Parce que cette année on a beaucoup travaillé, j'ai notamment beaucoup été à la technique cette année, et j'ai besoin aussi de reculer un peu, de des fois poser une semaine l'ordinateur et la caméra pour réfléchir mieux et pour mieux écrire. Donc cet été c'est beaucoup de conception, et dès la rentrée en septembre on revient à fond pour relancer tous les projets.
Ouais, je voulais juste en parler de Mathéo, parler de festival. Justement, tu parlais d'un très bon festival sur Marseille du court-métrage.
Le MCM à Marseille, qui a lieu chaque année vers mai, je dirais, qui est un super festival, en fait, qui met en relation des réalisateurs et des compositeurs de musique, qui, en plus d'être une super vitrine pour nous autres du métier, est un super lieu pour le public, en fait, parce que ça vous permet pendant une semaine complète d'assister à plein de films pour pas cher. Le midi aussi à des concours de court-métrage, et c'est une super expérience.
Je croyais des concours de pétanque.
De pétanque, non, à Marseille. D'accord. Ça, c'est la pause du midi en général.
Okay.
Non, mais c'est vraiment un super endroit, autant pour les gens du métier que pour le public. Et je leur fais de la pub parce que c'est vraiment un lieu qui est génial, avec de super rencontres à faire. Je voulais juste revenir un petit moment là-dessus, parce que du coup, là, tu vas dire que tu vas rentrer en phase d'écriture. Où tu pioches ton inspiration ?
Dans ce que je vis actuellement, là je suis en train d'écrire un court métrage qui est plus intime que ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais plus parler de ce que je peux ressentir, ce que je peux vivre. Je me suis rendu compte récemment aussi que le fait d'écrire me permettait de mettre des mots et de parler de choses dont je vais pas parler à des gens. Donc en fait, de ce que je vais vivre, et aussi beaucoup de ce que les gens autour de moi vivent. Je discute beaucoup avec des gens, et une idée peut venir en fait d'un coup. Tu vas me raconter que tu as eu un problème il y a 2 semaines, un gros problème, tout ça, et hop, ça va me ramener une idée. Et sinon, de mon imagination, je vais voir une actu dans le journal, sur les réseaux sociaux, ou un film, qui est une séquence, un plan, qui va me donner une histoire plus de fiction, qui va être moins intime. Mais c'est vraiment... Il faut savoir que je fais des films, mais je suis un mec qui me fait beaucoup de films dans ma tête aussi. Chaque situation qui se passe, je m'imagine 14 000 solutions derrière et tout ce qui pourrait se passer pour pas être surpris, pour pas me faire surprendre. Donc en fait, je cultive beaucoup ça, cette imagination, et je me retrouve souvent, en fait, j'ai du mal justement avec l'écriture à me poser, à me dire ok, aujourd'hui je travaille et j'écris. Des fois je me dis vas-y, ce soir je taffe, je prends mon carnet, je vais me caler quelque part, j'écris, il n'y a rien qui sort. Et c'est un peu compliqué, ça vient par moment, mais j'ai remarqué quelque chose. Peut-être que Nathalie, tu me disais que tu réalisais des courts-métrages, tu me diras si tu as écrit et si ça marchait aussi comme ça pour toi. J'ai remarqué aussi que la meilleure façon d'écrire, c'est d'écrire. C'est bête ce que je dis, mais c'est des fois, je ne sais pas quoi faire, je suis devant mon carnet, j'ai pas d'idée, et je commence à écrire une phrase, et en fait, des fois, je débite après sur 8-9 pages sans m'arrêter parce que une idée en ramène une autre. Et pour te répondre où je trouve mes inspirations, en fait, c'est c'est cette machine, en fait. Dès qu'on arrive à la lancer, c'est comme un train. Le plus compliqué, c'est de la lancer. Une fois qu'on est parti, on est parti.
Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose. Quand tu parlais de « je m'inspire aussi de la vie réelle, j'écoute beaucoup les gens », et c'est vrai que parfois la vie a bien plus d'imagination que nous, et la vie est bien plus forte que la fiction. Donc aller chercher, écouter les gens, voir ce qui se passe autour de nous, en fait, la matière aussi, souvent, elle est là, quoi. On peut le voir. Alors bon, moi, je vais pas parler de mes courts-métrages, mais j'en ai réalisé 4. Je n'écrivais absolument rien parce que j'avais tout dans la tête, et comme il y avait pas de dialogue, en fait, il y avait que des voix off. J'écrivais toutes les voix off, et c'est ça qui faisait ma trame, oui. Mon conducteur, en fait. Bien sûr. Et là, j'attaque mon premier documentaire en autoproduction à 52 minutes. Et là, c'est un véritable challenge parce qu'il y a des artistes qui me font confiance. Il faut que j'embarque tout le monde. Je fais tout. Et là, c'est super, une grande pression, parce que plein de trucs que je connais pas. Et c'est un super. J'ai été à Cuba. Enfin bon, voilà. Bref, on va pas parler de moi. Mais c'est une super expérience, et c'est absolument génial. Bon, Mathéo.
Mais dans l'écriture, justement, comme tu le dis, il y a de la matière de partout autour de nous. En fait, on se rend pas compte que tout le monde vit des histoires autour de nous, et qu'on peut en trouver de partout. Moi, je sais qu'à Paris, dans le métro, j'enlève mon casque et je regarde les gens autour de moi. Je me dis putain, mais tout le monde est sur tout le monde n'est pas content et fermé, et je me dis putain, mais lui il vit quoi? Et je m'amuse à essayer, en fonction des gens, de leur inventer une vie.
Oui.
Et c'est un truc que je veux faire, que je l'ai pas encore fait, parce que j'arrive pas à le faire sur une page, mais où j'aimerais bien quand je suis posé dans le train, dans le métro, imaginer la vie de quelqu'un, l'écrire et lui donner le papier à la fin, lui dire voilà, oh, je t'ai imaginé cette vie, salut, je pars. et en fait, comme tu dis, il y a de la matière partout autour de nous. On vit tous des histoires plus ou moins folles et qui peuvent alimenter ça. Et moi, c'est dans ça que je puise beaucoup. Mes potes me racontent beaucoup d'histoires, ma famille aussi. Et j'essaye d'écrire des histoires comme ça.
Mathéo, merci d'avoir été sur le plateau de Fréquence Mistral. On te souhaite une bonne continuation. Eh bien, écoute, c'est Maxime Hutin qui va nous donner le mot de la fin.
Eh bien, en espérant que du coup, cette journée parmi nous t'inspirera plein d'histoires. Et au plaisir de te retrouver sur l'antenne.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
C'était très bien.
Au revoir.